Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette journée d'études consacrée, comme vous le savez, à trois questions d'actualité liées au conflit israélo-palestinien. C'est évidemment un truisme de rappeler que ce conflit tient le devant de la scène, bien sûr médiatique, mais aussi dans toute une série d'autres enceintes, y compris les enceintes plus académiques et scientifiques, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et qu'on ne compte certainement plus les débats, les colloques, les discussions de tous ordres auxquels cette situation a pu donner lieu. L'actualité ou les actualités plus récentes nous ont incité, malgré tout, à vous proposer cette journée d'études en ayant comme souci de l'axer, comme vous l'avez vu, autour de trois thèmes principaux qui, effectivement, ont été plus particulièrement mis en lumière par cette actualité de ces quelques dernières années et qu'on a donc regroupé autour de ces trois axes intitulés ou repris chacun dans un seul mot-clé, l'État, pour le premier atelier qu'on vous proposera ce matin, la guerre pour le deuxième en début d'après-midi et enfin le commerce pour le troisième d'entre eux en fin de cette journée. Quelques mots sur ces trois thèmes. Je reviendrai de façon un tout petit peu plus détaillée sur celui de l'État dans quelques instants pour introduire l'atelier de ce matin. En ce qui concerne la guerre, bien effectivement, c'est un élément constant, une toile de fond constante du conflit israélo-palestinien avec des flambées de violence, des poussées de fièvre à différents moments et des conflits plus visibles, plus ouverts qui se déclarent dans différentes situations, dans différents contextes. Et malgré cela, en toile de fond, en quelque sorte, plutôt l'idée d'un conflit de basse intensité qui perdure. Et un certain nombre d'événements récents, en particulier l'utilisation de la force par les forces armées israéliennes contre Gaza au début de l'année 2009, l'affaire de la flottille l'année passée, ont remis cette question du recours à la force sous le feu des projecteurs. Et on s'y intéressera dans l'atelier de tout à l'heure sous deux angles particuliers en ce qui concerne l'approche juridique, plus particulièrement de la question, l'angle de la licéité du recours à la force lui-même au regard des règles du droit international et particulièrement en s'attardant à la question de la légitime défense et de l'ampleur, en quelque sorte, du droit de légitime défense dans ces contextes. Et puis, un autre angle des questions liées au recours à la force, qui est plutôt ce qui concerne la façon dont la force est utilisée dans le contexte du conflit, et au-delà de cela également, le sort qu'il convient de réserver aux populations civiles des territoires palestiniens occupés, en voyant dans quelle mesure, effectivement, ce terme d'occupation, justement, reste encore pertinent par rapport à la situation actuelle, en particulier en ce qui concerne Gaza. Donc, en termes plus traditionnellement juridiques, c'est une situation qu'on envisagera à la fois sous l'angle du jus contrabellum, les règles qui régissent le recours à la force en droit international, et le jus in bello, c'est-à-dire les règles relatives, comme je le disais, à la conduite des hostilités et au statut et au sort qui est réservé aux populations civiles dans les situations de conflit. Par rapport à ces thématiques peut-être plus classiques, le commerce apparaît sans doute à certains égards comme un nouveau venu, si on peut dire, en tout cas dans le domaine des préoccupations juridiques. C'est une question qui s'est posée avec plus d'acuité depuis relativement peu de temps, sous deux angles essentiellement. Le premier, c'est essentiellement la production d'un certain nombre de biens dans les territoires occupés et la question de leur commercialisation ensuite. Et l'autre, c'est la question effectivement essentiellement des investissements étrangers dans les territoires occupés et d'un certain nombre de litiges qui ont pu se nouer autour de ces pratiques, de ces politiques d'investissement qui ont été menées dans les territoires, avec, dans un certain nombre de cas d'ailleurs, des litiges bien concrets devant des juridictions internes d'un certain nombre d'États ou des juridictions régionale. Et donc là, on assiste sans doute à un développement assez intéressant dans le domaine, et avec des prolongations sans doute aussi inattendues à certains égards. En particulier, on peut penser à la question de la liberté d'expression qui est venue s'ajouter en quelque sorte ou se greffer sur cette problématique des relations commerciales et des actions entreprises dans ce registre, puisque certains appels au boycott ont donné lieu à des poursuites dans certains États sur cette base-là. Et donc, c'est une prolongation de cette question des relations commerciales que nous envisagerons également dans le cadre de ce dernier atelier. Alors, il est très clair dans l'esprit des organisateurs et dans le programme que vous avez toutes et tous vu maintenant et je pense décortiqué de façon détaillée certainement à ce stade, que notre souci est de vous proposer une réflexion sur ces questions d'actualité et, je dirais, seulement sur ces questions d'actualité. Donc, la préoccupation est certainement de ne pas rouvrir de façon générale les questions historiques, juridiques, voire morales ou autres, plus générales, liées au conflit israélo-palestinien, mais clairement de se concentrer sur ces trois problématiques-là. C'est très clairement ce que feront les intervenants qui participeront à ces trois ateliers d'aujourd'hui, et c'est très clairement à cela aussi que seront limités les débats pour lesquels nous avons gardé une place assez significative dans le programme. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à limiter et à centrer vos questions sur l'objet de chacun des ateliers. Et pour être tout à fait clair, les présidents de séance ne donneront pas suite, pas plus que les intervenants, aux questions qui porteraient sur des éléments qui déborderaient ces trois thèmes spécifiques. Quelques mots encore en ce qui concerne la conception générale de cette journée d'études. L'idée était de vous proposer, et est toujours de vous proposer, une approche raisonnablement interdisciplinaire, même si elle est pour l'essentiel enracinée, si je puis dire, dans le droit international. C'est une journée qui est co-organisée par le Centre de droit international de l'ULB, mais également par le réseau d'études en politique internationale de l'ULB, dont la directrice, la professeure Barbara Delcourt, qui devait normalement ouvrir cette journée d'études avec moi aujourd'hui, a été empêchée de le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et je vous demande donc de bien vouloir excuser son absence aujourd'hui. L'idée donc d'une approche interdisciplinaire qui s'inscrit essentiellement dans la lignée de ce que ces deux unités de recherche de l'Université libre de Bruxelles ont déjà réalisé précédemment, en particulier en 2002 à la suite des attentats du 11 septembre et des actions militaires menées en Afghanistan. Un colloque avait été organisé en coopération avec l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur la question de la lutte contre le terrorisme et le droit international. Et en 2003, un colloque du même ordre avec les mêmes partenaires, là aussi Paris 1 encore, en ce qui concerne la guerre en Irak et ses suites sur le plan du droit international. Alors, interdisciplinarité, je dirais quand même, peut-être bien comprise sous l'angle ou du point de vue des juristes, puisque effectivement l'analyse, et je vous le disais, l'enracinement principal, c'est clairement un enracinement dans le droit international, mais cette interdisciplinarité va se manifester par le fait que dans chacun des panels, on aura un éclairage et un commentaire qui sera réalisé sur les présentations faites par les juristes, commentaire qui sera fait par des spécialistes dont le terrain d'analyse est essentiellement celui des relations internationales. Et donc, le souci est certainement de ne pas se confiner strictement à un débat technique et de juristes, et aussi d'incorporer cette perspective de sciences politiques et de relations internationales de manière plus large. L'autre souci que les organisateurs ont eu est très clairement d'assurer une certaine diversité dans les points de vue qui vont être exprimés sur ces trois thèmes. Et je crois que vous le constaterez assez rapidement, les intervenants que nous avons réunis pour aborder ces trois thèmes ne partagent pas forcément les mêmes approches de ces questions et nous espérons que cela pourra donner le point de départ à des débats fructueux et animés avec une contradiction, des échanges de vues qui soient aussi stimulants que possible. À cet égard, qu'il me soit permis de remercier très chaleureusement au nom des organisateurs l'ensemble des participants aux trois ateliers qui ont accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui, certains venant d'assez loin, d'autres de moins loin, mais ils ont quand même dû se lever tôt et c'est effectivement quelque chose qui est fort appréciable. Donc nous sommes très heureux de pouvoir compter sur leur expertise et leur participation active dans cette journée. Je voudrais, tant que nous sommes dans le registre des remerciements, remercier également les institutions qui ont rendu possible l'organisation de cette journée, en particulier le pôle Bernheim, la Société belge de droit international, la Faculté des sciences sociales et politiques de l'ULB et la Faculté de droit et de criminologie de l'ULB, qui donc ont permis la mise sur pied de cette rencontre. Sur un plan plus concret, je voudrais également remercier très chaleureusement la secrétaire du Centre de droit international de l'ULB, Chérifa Sadouk, qui a réalisé un travail remarquable et constant depuis quelques semaines pour l'organisation de cette journée et qui a pu être secondée, comme vous l'avez vu ce matin, par une équipe particulièrement efficace qui a assuré l'accueil des participants et d'autres tâches liées à l'organisation. Alors, très brièvement, ces propos liminaires étant, et généraux étant terminés, je voudrais introduire très succinctement le premier atelier de cette journée, celui donc consacré au thème de l'État. Alors, en quelque sorte, cette question de l'État, et en particulier cette question de la qualité étatique de la Palestine, peut apparaître à certains égards comme une sorte d'arlésienne dans le débat juridique sur le conflit israélo-palestinien. L'État palestinien a été proclamé de manière officielle en 1988. S'en sont suivies toute une série de reconnaissances de la Palestine en tant qu'État par plusieurs dizaines d'États à travers le monde. Et l'actualité récente montre que c'est un phénomène qui continue à se développer. Et en même temps, des doutes importants subsistent très clairement à cet égard-là. Donc on pense l'avoir vu, on pense l'avoir vu ici, on pense l'avoir vu là, et puis finalement peut-être que c'est quelque chose qui est moins concret ou saisissable qu'il y paraît à première vue. Et l'illustration sans doute la plus convaincante qu'on a de ces doutes, c'est le questionnement qui est actuellement soumis à la Cour pénale internationale, puisque, comme vous le savez sans doute, à la suite de l'intervention militaire israélienne à Gaza au début de 2009, l'autorité palestinienne a tenté de saisir de cette question la Cour pénale internationale. Comment pouvait-elle le faire ? Bien sûr, base de l'article 12, paragraphe 3 du statut, qui prévoit la possibilité pour des États non partis au statut de soumettre à la Cour des situations dans lesquelles des faits qui relèvent de la compétence de la Cour en matière pénale auraient été commis. Et donc tout le débat est évidemment de savoir si on peut estimer que l'autorité palestinienne ou la Palestine, au nom duquel l'autorité a agi, présente cette qualité étatique requise pour l'application de cette disposition du statut. De toute évidence, c'est une question que le bureau du procureur ne trouve pas particulièrement aisée à trancher, puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans que cette institution en est saisie et qu'il n'a toujours pas laissé entendre même ce qu'il pourrait répondre à cette question. Et donc on espère très modestement que peut-être les discussions de ce matin pourront stimuler un petit peu la réflexion de nos collègues juristes de la Haye, qu'ils en auront des échos plus ou moins rapides, puisque la distance est malgré tout relativement limitée. Et donc on peut espérer qu'effectivement ça leur donne quelques objets de réflexion pour poursuivre effectivement leur examen de cette question qui paraît particulièrement épineuse. Pour en parler ce matin, nous avons le plaisir de retrouver Mathias Forteau, qui est professeur à l'université je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant, Paris-Ouest, hein, c'est l'appellation officielle, ex-Paris 10, Nanterre, La Défense, et qui a une expérience très significative, tout comme d'ailleurs ses autres copanélistes, si je puis dire, juristes, du contentieux territorial dans des contextes très concrets, dans le contexte de litiges internationaux, et qui donc les rend certainement tous les trois très sensibles à cette question de savoir ce qu'est exactement que l'État, ce que ça implique en termes d'assises, de pouvoir, etc. etc. Et donc, à cet égard-là, tous les trois sont certainement fort bien placés et très qualifiés pour nous en parler. C'est aussi le cas de Marcelo Cohen, qui est professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, et puis de Jean Salmon, qui est professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et ancien président et directeur du Centre de droit international de l'ULB. Leurs présentations seront commentées par Nathaniel Berman, qui est lui professeur à l'Université Brown aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur les questions entre autres d'administration internationale de territoire et sur la question de savoir dans quelle mesure ces nouvelles formules mises sur pied pour la gestion intérimaire de territoire par la communauté internationale nous renvoyaient éventuellement à des modèles plus anciens d'administration de territoire par des entités autres que le souverain territorial éventuel, et qui donc lui aussi a mené une réflexion très aboutie sur cette question de l'État de façon générale. De façon très pratique, chacun des intervenants parlera pendant une période de 15 minutes de façon à nous laisser un temps appréciable pour les débats d'à peu près une heure après cela. Et sans plus attendre, je passe donc la parole à Mathias Fortaud.